commencer les dinim de Ilchot Birchot Hashacha ou Sh'a Brachot. Donc on a fini par Baruch Hashem les lois des Tefilin. En fait, le Shulchan Aruch suit l'ordre quand on se lève le matin. Donc on s'est dans l'ordre du Mishnah Moura. Donc on s'est levé le matin, on a fait sa toilette, on s'est lavé les mains, on a mis les titites, d'accord ? On a mis les Tefilin. Je dis l'ordre dans lequel on a étudié. On a même écrit les Tefilin, puisqu'on a parlé des Tefilin, donc du coup on les a même écrits. Et maintenant on passe aux bénédictions du matin, Birkot Hashacha. Alors vous allez voir qu'il y a quelques différences dans la manière comment on décrit les Birkot Hashacha, les bénédictions du matin dans le Shulchan Aruch, par rapport à la manière comment nous on le fait aujourd'hui. Vous verrez qu'il y a quelques différences, et on essaiera de les expliquer. Donc, Dinne Birkot Hashacha ou Botet Seifim. Les lois des bénédictions du matin, page en bas, même base, chapitre 46. Dîné Birkat Hashachar ou vos 7 Teifim, donc les lois des bénédictions du matin, et donc il y aura 9 chapitres. Premier chapitre, Aleph. Kesheye Or Mishnato. Lorsqu'une personne se réveille de son sommeil. Donc on va voir ici différentes bénédictions qui ont été instaurées par les Chachamim, puisque la Gemara Brachot nous dit, on n'a pas le droit de profiter de ce monde-ci sans bracha, sans bénédiction. C'est comme si je viens chez quelqu'un, je mange, ni je dis bonjour, ni je dis au revoir, je fais ce que je veux, ça marche pas comme ça. Il y a un principe qui est écrit dans la Gemara Brachot, qui a été instauré par la Chachamim, parce que pour les Chachamim, ça leur a paru important et ça leur a paru tellement évident que pour eux, c'est pratiquement comme si c'est écrit dans la Torah, que on ne peut pas profiter de quoi que ce soit, de ce monde-ci, sans bracha. Et pas seulement ça, la Gemara là-bas, elle dit que celui qui profite de ce monde-ci sans dire une bénédiction, d'accord, donc d'accord, c'est écrit Keilu Ma'al, c'est quelque part comme si qu'il est en train de voler à Kadosh Baruch Hu. Ça se fait pas. Avant de prendre, tu dis merci. Après avoir pris, tu dis merci. D'accord ? Pourquoi ? Puisque c'est écrit « L'Hachem Haaretz Umloa ». C'est écrit que la terre appartient à Dieu. Donc puisque la terre appartient à Dieu, il faut lui demander, il faut lui dire merci avant. Et il faut le remercier, comme on l'a dit, une fois qu'on a pu avoir ce qu'on a pu avoir. Très bien. Donc maintenant, pourquoi j'explique ça ? C'est important de comprendre ça, parce que avec ça, on va comprendre la structure et le contenu des brachot qu'on va citer maintenant. « Kesheye Or Mishnato » lorsqu'une personne se réveille de son sommeil. Donc il doit remercier Akadosh Baruch Hu. C'est quoi la première chose pour laquelle on doit remercier Akadosh Baruch Hu ? Le fait qu'on s'est réveillé. Parce qu'on aurait pu ne pas se réveiller, Chas v'Shalom. Donc c'est pour ça qu'on dit, Yomar, il va dire, Elokai Neshama. Il va dire, mon Dieu, d'accord ? Neshama Shenatatabi, Teorai, la Neshama que tu m'as donnée est pure, etc. etc. D'accord ? Donc c'est le Elokai Neshama qu'on a au début de Rachot. Ata yetzarta tanefarta veata donc ulachazira vilati lavo, donc on remercie Akadosh Baruch du fait que il nous a rendu cette neshama et que finalement c'est cette neshama qui nous suit depuis notre naissance jusqu'à Mashiach. Ah, parce qu'après les gilgulim, etc., etc. Et donc on conclut cette bracha en disant Baruch ata Hashem, je cite du sidour, amachazir neshamot ilgarim metim, Akadosh Baruch qui a rendu les neshamot à des corps morts. Je considère que une personne lorsqu'il dort, il touche à la mort. C'est pas sûr, c'est pas dit qu'il va se réveiller. Donc on remercie.
Le Modani, il est où là ?
Le Modani, on l'a déjà dit avant. Le Modani, on l'a dit quand on se réveille. D'accord. Là, on s'est déjà levé, on s'est déjà habillé, on a mis les titites et les tefilines. Il est déjà paré là. Donc là maintenant, on va remercier Akadosh Baruch Hu. On va remercier Akadosh Baruch Hu. Et le Kain, je dis mon Dieu, la Neshama que tu m'as donné. Alors, vous remarquez que dans les, je sais pas s'ils l'ont mis dans le Patach Eliyahu, dans le chemin passe un Patach Eliyahu derrière.
Le bleu.
Non, c'est la dernière version ça. Je pense qu'ils l'ont fait, mais je vais vérifier quand même. Voilà. Vous voyez, après le Elokai, on a ici une virgule. Chez moi, ils ont mis un point, carrément. Pourquoi cette virgule ? À quoi sert cette virgule ? C'est une virgule qui est très importante, plus importante que les autres virgules. De manière générale, les autres virgules, c'est une manière de prendre une pause, d'accord, et de structurer le sujet. Mais là, la virgule est très importante. C'est le Mishnah Brura. Je vous dis à Laura, c'est le Mishnah Brura. Pourquoi ? Puisque si on dit Elokai Neshama en un mot, ça voudrait dire quoi ? Ça veut dire mon Dieu. C'est la Neshama. Alors que c'est pas du tout ça ce qu'on veut dire. On veut dire Elokai, mon Dieu, Neshama, Shanatatabi, la Neshama que tu m'as donnée, Théorai et Pion. Ça change tout. Alors quand il y a quelqu'un qui dit Elokai, Neshama, d'accord ? Mon Dieu, la Neshama, il a déformé le texte, il a dit quelque chose de négatif. Donc c'est le Mishnah aurait dit, il faut faire attention à ça, à cette virgule-là, il dit Elokai, mais si on est pressé. Neshama, Shanatatabi, Théorai. Il y a quelques endroits dans la tuyla comme ça qu'on étudiera avec Zotachem. Donc, dès qu'on se réveille le matin, première chose pour laquelle on remercie Akadosh Baruch Hu, c'est pour le fait de se réveiller. Donc, Yomar et Elokai Neshama. Je suis toujours à la première ligne. Ensuite, Keshe Ishma Kol HaTarnegol. Il faut dire qu'il s'est réveillé avant que le jour se lève. Lorsqu'il entend la voix du coq, il s'est levé très tôt. Bon, il faut dire aussi qu'à l'époque, les journées étaient structurées en fonction du soleil. C'est-à-dire qu'en été, on travaillait plus longtemps, en hiver, on travaillait moins longtemps. C'était structuré en fonction de la lumière du soleil. Donc on se levait un peu avant, et voilà, et on était là. Et donc dès qu'on entend, colle à Tarnégol, la voix du coq. Yevarer, il fait la bracha. Anoten la servi bina. Alors qu'est-ce qu'on dit dans cette bracha? On remercie Akadosh Baruch Hu d'avoir donné au servi. C'est quoi le servi? Alors servi, il y a deux explications. Première explication, servi, c'est le coq.
Et il faut lui répondre
le téléphone. Je sais pas quel téléphone sonne.
Ou alors mets en sourdine. Le téléphone en sourdine, alors, s'il vous plaît.
Première explication, c'est qu'il dit que...
Il est où le téléphone?
Il est là, c'est le téléphone qui
vient. Non, c'est dans une veste là-bas, pardon.
Non, oui, c'est là-bas.
Il est à côté de toi.
Il est à côté de toi, il est là.
Je crois que c'est celui-ci.
Alors, passe-le-moi, s'il vous plaît.
Non, mais je comprends pas. Hein.
Ah oui, c'est ça. C'est pas ça?
Ah ben, si c'était celui-là, j'aurais entendu.
Bon, il sera, on va s'en occuper. Alors.
Sale bête.
Ah, d'accord.
Ton
beau frère, hein, ne l'embête pas.
C'est pas grave, il est belge.
Enfin, quand t'as donné le nom, je suis à Cognac.
J'ai dit belge.
Tu sais que moi j'étais là-bas, ils disent la même chose sur nous.
Oui,
la même chose, hein.
Non, ils veulent pas dire la même chose sur nous, mais non, on peut pas être quelqu'un de belge.
Ils nous traitent de bêtes, d'imbéciles, de tout ce que tu veux.
Ah, d'accord.
Ah non.
C'est pas
celui-là. Ah oui.
C'est marrant, j'ai l'impression que ça vient par là.
Non, c'est vrai, ouais. Vous voyez comment ça... Donc on est en train de dire, c'est quoi servi? Servi, il y a une première explication qui dit que servi, c'est le coq. Donc on remercie à Akadosh Baruch Hu d'avoir donné au coq la chorma de savoir discerner entre le jour et la nuit. Et pas seulement ça, de voir quand le jour se lève. Parce que quand le coq va... Il fait encore nuit. Et lui, il a la capacité de voir quand le jour est en train de se lever. Ça, c'est une première explication.
J'ai entendu coq gueuler en pleine nuit, hein.
Ah oui, bon.
Je vais te dire...
Il y en a qui sont déréglés.
Il n'a pas sorti, hein. Ou l'après-midi, ou n'importe quoi.
Mais bon, on va dire le coq, c'est un grand classique. Après, aujourd'hui...
On croyait que c'était le coq qui réveillait tout le monde.
À part ça, il y a une autre explication. Il y a une autre explication qui dit que servi... On ne parle pas ici du coq. De qui on parle? Parce qu'aujourd'hui, bon, aujourd'hui, le coq, ça ne nous concerne plus vraiment. Le coq, c'est le cœur d'une personne. Le cœur d'une personne qui est capable, d'accord, qui est capable de discerner le jour et la nuit, et qui est capable de comprendre qu'est-ce qui se fait le jour, qu'est-ce qui se fait la nuit, et donc qui est capable de... C'est une structure qu'on dit, que c'est écrit que ça, même les bébés, ils le ressentent.
Le bien du mal.
La différence entre le jour et la nuit.
Certains, alors c'est intéressant. Les bébés, ils ont du mal.
Écoute bien, c'est intéressant, parce que j'ai lu dans un endroit que c'est expliqué, que même dans le ventre de sa mère, un bébé, il est capable de faire la différence entre le jour et la nuit.
Bien sûr.
Et il perçoit la différence.
Il y a une lumière ambiante.
Il perçoit la différence et
à travers la peau,
ça change, il n'a pas le même comportement. Ça veut dire que le cœur a une certaine compréhension, la personne comprend si il fait jour ou il fait nuit. Donc on remercie Akadosh Baruch Hu pour ça, de nous avoir donné la possibilité de voir la différence entre le jour et la nuit. D'accord. D'ailleurs, il y a une sur cette bracha et sur une autre bracha, il y a une question qui est posée, est-ce qu'un non-voyant doit les dire? Puisque le non-voyant, ça dépend, il y a des non-voyants qui voient la lumière du jour, dans ce cas-là la question ne se pose pas, il y en a que même ça ils ne voient pas. La question se pose, est-ce qu'ils doivent le dire? La majorité des décisionnaires disent qu'il doit quand même le dire, puisqu'il ne remercie pas Akadosh Baruch Hu pour soi-même, il remercie Akadosh Baruch Hu sur le fait que Dieu a créé le concept dans le monde. Donc c'est un concept qui lui rend service à lui aussi, puisque même si lui ne voit pas, il y a d'autres personnes qui voient et automatiquement ils vont le guider. Donc il le dit quand même.
Si pour discerner entre le bien et le mal, c'est la même chose. Hein. À l'aveugle, il dit discerner entre le bien et le mal.
Oui.
Il y a un éphorage qui dit que c'est entre le bien et le mal, le jour et la nuit.
Là, jour et la nuit, encore une fois, c'est les brachot, pshat, c'est le sens simple. Hein. Je remercie Akadosh Baruch Hu parce que ça vient de se passer. Kshelovesh, donc je suis à la page suivante, première ligne. Kshelovesh, lorsqu'on s'habille, Yevarer, il fait la bracha, Malbish Arumim. Il fait la bracha, Malbish Arumim. Donc Akadosh Baruch Hu qui a habillé des gens qui étaient nus. Ça ne veut pas dire qu'il était nu quand il dormait. D'accord, c'est ce qu'il dit Mishra
Brura.
Alors, il dit ça, à l'époque, bonne question. Alors, à l'époque du Shulchan Aruch, on en parlera tout de suite, on faisait les brachot au coup par coup. C'est-à-dire, il entend le coq, il se réveille, Elokai Neshama. Il faisait les brachot au coup par coup. Il met son par-dessus, Malbish Arumim. D'accord? Après, il se gratte les yeux, il se lève les yeux, Poker Ivrim. Ah, Dieu m'a ouvert les yeux. C'était au coup par coup. Bon, après, vous imaginez, il faut être très rapide, hein. Il faut être très rapide et le matin, en général, on a un peu la tête...
Si t'as pas entendu le coq, tu l'as oublié, la bracha.
Très bien, bonne question. On va y arriver. Alors, en tout cas, ce que je suis en train d'expliquer, c'est qu'à l'époque, on faisait les brachot au coup par coup. Après, ça s'est changé. Ça s'est changé parce que, bon, bien sûr, ça devient trop compliqué. Donc, on a centralisé les brachot à un seul moment. Ce moment, on verra, il y a une marque locale entre les Sfaradim et les Ashkenazim. Les Sfaradim, ils lui disent qu'on peut le faire à la maison, il n'y a pas de problème. C'est Minak Jarizel d'ailleurs aussi. Les Ashkenazim disent non. On peut le faire à la maison si on veut manger avant ou si on veut prendre quelque chose avant. On verra après qu'est-ce qu'on a le droit de manger. Mais on les refait à la synagogue. Parce que qui dit centralisé dit qu'il faut penser
les
à ceux aussi. Oui, les brachot.
On les refait.
Ah ouais, c'est un grand classique.
J'ai fait deux fois.
Vous venez dans une synagogue ashkenaz, ne soyez pas étonnés si avant Hodou vous entendez le chazik, c'est pas au khatash, au khatash, au khatash, tout le monde répond Amen.
Je pensais qu'il les avait pas dit encore.
Dans la majorité des cas, il les a déjà dit. Et il les refait.
Ah, le chaliach ou tout le monde?
Le chaliach, c'est bon. Et tout le monde répond Amen.
D'accord, mais...
Et ça prend le temps que ça prend.
Donc tout le monde ne les répète pas?
Non. Ils répondent Amen, 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 Amen.
D'accord.
Vous avez 22 Amen. Donc, j'étais en train de dire, Malbish Arumim, lorsqu'on s'habille, lorsqu'on met son par-dessus, Yevarech, il fait la bracha Malbish Arumim, Akadosh Baruch Hu qui a habillé Arumim, ceux qui sont nus. Alors encore une fois, ça veut pas dire qu'il était nu, mais c'est une manière de dire à Kadosh, de remercier Akadosh Baruch Hu sur le fait qu'il nous a donné la chorma de savoir comment fabriquer des vêtements, et qu'il nous a donné l'argent pour pouvoir acheter des vêtements.
Oui.
D'accord? Donc c'est une image quand on dit ceux qui sont nus. Kshayaniach Yadav al-Enav, lorsqu'il met ses yeux sur ses mains. Ah pourquoi il met ses yeux sur ses mains? D'accord? Pourquoi pas, non, pardon, ses mains sur ses yeux. Pourquoi il met ses mains sur ses yeux? Alors nous dit le Mishnah Moura, nous dit le Mishnah Moura qu'ici on parle d'une personne qui n'a pas encore fait Nitzilatadaï, pour répondre à la question de Lionel. D'accord? Donc là, on fait un flashback en arrière. Et cette personne-là, étant donné qu'il n'a pas encore fait Nitzilatadaï, tant qu'on n'a pas fait Nitzilatadaï, on n'a pas le droit, d'accord? On n'a pas le droit de mettre les mains sur les yeux. Il y a un danger.
D'accord? On ne peut même pas dire le nom d'Hachem.
Ah, bonne question. Alors comment peut-on dire le nom d'Hachem? Alors, il explique ici qu'on parle dans un cas d'une personne qui, au matin, au réveil, s'est déjà un petit peu lavé les mains, mais de manière sommaire, mais il n'a pas encore fait une vraie toilette. Et donc, il n'a pas encore le droit de mettre la main sur ses yeux tant que ses mains ne sont pas bien lavées. C'est un rapport avec la Touma. C'est un rapport avec la Touma, parce qu'on dit que les yeux récupèrent la Touma beaucoup plus facilement. Et les extrémités des mains, eux aussi ont la Touma. Bon, c'est Alpi Kabbalah, ne demandez pas pourquoi. Donc, dès qu'il met ses mains sur ses yeux, qu'est-ce qu'il fait? Il fait la bracha à notre Yevarech, il fait la bracha Pokach Ivrim. Parce que la première chose, le premier membre avec lequel on va profiter quand on se réveille, c'est quoi? C'est les yeux. J'ouvre les yeux et je vois ce qu'il y a autour de moi.
Encore une fois, d'accord, l'aveugle, qu'est-ce qu'il
y a?
Alors, encore une fois, je dis l'aveugle, il le dit, parce que l'aveugle ne remercie pas Akadosh Baruch Hu sur soi-même, il remercie Akadosh Baruch Hu sur le fait que ce concept existe, et qu'il lui sert à lui aussi.
Pokach. C'est pas un concept, c'est...
Pour lui, c'est un concept.
Ça existe. Ouais.
Pour lui, c'est un concept.
C'est donné au genre humain.
Demande à un non-voyant qu'est-ce que c'est la vue, il ne sera pas capable de te répondre. Pour lui, c'est un concept. Il essaie de l'imaginer, mais on lui dit oui, bon, ça peut servir parce qu'il y a d'autres personnes qui arrivent à percevoir des choses. Pour lui, c'est percevoir.
Connaissance, en fait.
Il peut avoir une idée par rapport au son. Depuis qu'il entend, il peut avoir
déjà
une idée que
c'est à
peu près.
J'ai fait un sondage. Il n'y a pas aucune idée.
On est loin du concept, ça reste tout le temps.
Aucune idée. Demande-lui ce que c'est une couleur, par exemple.
C'est quand même plus proche de la réalité que le concept des noms premiers, par
exemple. C'est pas, c'est un rapport avec le son.
Demande-lui. Oui, bien sûr, bien sûr.
Mais tu ne pourras pas lui dire le rouge, c'est comme ça, et le
vert. Impossible.
Bien sûr.
Alors, pokéar, il te demandait, ça veut dire quoi, pokéar? Pokéar, en hébreu, ça veut dire ouvrir. D'accord? Pokéar. Ouais. Vas-y, moi, ouvrir. Non, pas potéar. Potéar, ça c'est... Pokéar, d'accord? Pokéar, c'est ouvrir, mais ouvrir dans le sens ouvrir quelque chose qui était fermé. D'accord? Éclairer. Ouvrir dans le sens éclairer. Ivrim, donc Ivrim, les non-voyants. Donc les non-voyants, c'est qui? C'est nous. C'est-à-dire celui qui ne voyait pas, Dieu nous donne la possibilité de voir. Keshe Yeshev, lorsqu'il s'assoit, Yevarer fait la bracha, Matir Asurim. Il s'assoit sur quoi? D'accord? Alors, c'est intéressant, parce que là, il fait la bracha sur son lit. Encore une fois, je vous dis, c'est à l'époque de la Gemara, c'était comme ça. À l'époque, je crois, non, c'était déjà en train de changer.
Les malades, ils font comme ça.
D'accord. Donc, il ouvre les yeux, enfin, il se réveille. D'accord.
Il lave les mains parce que l'eau est à côté.
Oui. Il se réveille, qu'est-ce qu'il fait comme bracha? Il dit, Elokai Neshama, merci à Kadosh Baruch Hu. Il entend le coq, d'accord. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il a entendu, alors c'est intéressant dans l'ordre, ça veut dire qu'il il s'est réveillé avant d'avoir entendu le coq. C'est-à-dire que l'horloge biologique l'a fait de réveiller avant le coq. Eh ben oui, il y a un
ordre. D'accord. De avant le réveil.
Moi, ça m'arrive très souvent de me réveiller juste 30 secondes avant le réveil.
Ouais.
Je relève la main, ah, c'est l'heure. D'accord.
Il
y a des fois, ni on entend l'horloge biologique, ni on entend le réveil.
Rien.
Parce qu'il y a des cycles. Chacun a un cycle de 1h30 à peu près. Il y a un médecin hier, un copain à moi qui m'a dit, on a des cycles de 1h30. Alors, c'est facile, si par hasard, un exemple, tu prends une petite couche à minuit, il faut que tu travailles, tu calcules 6 fois 1h30. Ça dépend de ton.
Mais des fois, ça n'a rien à voir avec les cycles. Hein. Mmh. Enfin, des fois, je sais, je mets le réveil, je dois prendre un avion, je me réveille à 5h du matin. Oui. 5h moins 1, je me réveille. Ouais. Je regarde le réveil, ah, 5h moins 1.
Calcule d'accord. 1h30 avant.
Et toujours, il y a.
Le multiple de 1h30. Ah. Attends, après,
juste. Et toujours 1h30. Bon, intéressant. Je sais pas. Faut voir. Ah, donc on était en train de dire. Donc il s'est levé, il a ouvert les yeux, d'accord. Il s'est levé, allez messieurs, il s'est levé, il a entendu le coq, d'accord. Donc il commence à s'habiller, il va se couvrir, d'accord, il va se couvrir parce qu'il est dans son lit. Il met la main sur ses yeux, ensuite il va s'asseoir. Et là quand il va s'asseoir, qu'est-ce qu'il fait comme racha, d'accord? Matir Asurim, libérer les prisonniers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fait de pouvoir s'asseoir, le fait de pouvoir bouger, ça nous donne le sentiment d'être libre. Un prisonnier, c'est quelqu'un qui ne peut pas bouger, qui n'est pas maître des gestes de son corps. Et le fait qu'on ait maître des gestes de son corps et qu'on est capable de s'asseoir, d'avoir une stature différente, ça libère l'esprit d'une personne. C'est extraordinaire ce qui est expliqué ici.
Donc ça n'a rien à voir avec Matira Sourim qu'on fait dans la Mida, par exemple.
Non, Matira Sourim, on va dire, c'est pas le prisonnier au sens prisonnier. C'est au sens qu'une personne qui n'arrive pas à bouger se sent prisonnier.
Aux angoisses.
D'accord. Oui. Demandez à une personne, par exemple, qui doit faire de la rééducation, qui n'arrive pas à bouger, il se sent prisonnier, même s'il y a du monde autour de lui. Parce que le fait de pouvoir bouger et de donner au corps la stature qu'on a envie, ça nous donne un sentiment de liberté. Ça donne un sentiment de liberté. C'est pour ça que les prisonniers qu'on a envie de mettre en réclusion, etc., enfin je ne sais pas s'ils font ça encore aujourd'hui, ils limitent leur mouvement du corps, chez Mishmor. Pourquoi? Parce que ça donne justement une sensation d'être prisonnier. Donc quand j'ai la possibilité, Baruch HaShem, de m'asseoir, je remercie Akadosh Baruch Hu, c'est Akadosh Baruch Hu qui me donne... Oui.
Jusqu'à présent, on était allongé.
Jusqu'à présent, on était allongé.
C'est juste à ce moment-là, quand c'est tout ce qu'on a fait avant, Malbich Arumi...
Tout
Malbich
Arumim,
on était allongé.
Malbich Arumim, il est tout nu, donc il va commencer, je sais pas, à mettre un tout vêtement ou quelque chose, mais il s'est pas encore assis. Dès qu'il s'assoit, d'accord, il s'assoit, il prend une stature, il s'assoit, c'est-à-dire qu'il a enlevé sa couverture. Là, il fait la bracha, Matira Sourim.
On devrait dire redresser les courbés à ce moment-là. On devrait dire redresser les courbés à ce moment-là.
Non, c'est pas encore ça. Non.
Mais oui, mais on devrait dire non. Parce que c'est la.
Keshezokef, lorsqu'il va se lever, d'accord, lorsqu'il va se tenir debout. Il va rire, il fait la bracha, donc vous voyez que c'est bon, c'est de l'acrobatisme, hein. Ça veut dire qu'en une minute, il doit balancer 22 brachot et à quel moment, etc. Vous comprenez pourquoi ça a changé. Donc, chez Zokef, Yevarer, Zokef Kefoufim. Lorsqu'il se lève.
Un prix de gros aujourd'hui.
Lorsqu'il se lève, Yevarer, il fait la bracha, Zokef Kefoufim, Akadosh Baruch, qui a donné la possibilité à ceux qui sont tordus de se redresser. Et ça, c'est une bracha. On a dit que le fait de pouvoir prendre la stature qu'on veut, ça nous donne un sentiment de liberté. D'accord? Et le fait de pouvoir se redresser, c'est ça ce qui est une des plus grandes particularités de l'homme. C'est ça ce qui nous donne le sentiment d'être maître sur soi-même et d'être maître sur ce qui nous entoure. Bien sûr, pas dans le sens négatif. Zokef Kefoufim. C'est pas seulement dans le sens physique, c'est également dans le sens métaphysique. Le fait de se redresser, quelqu'un qui se redresse, ça veut dire, je sens que je reprends de l'assurance en moi. Et donc je remercie Akadosh Baruch pour ça.
Tu te zen.
D'accord.
les boudus...
C'est Ania Raglavaret. Oui. On dit, c'est la psychologie, ça, hein, quelqu'un qui tient pas droit, c'est que... Chiania Raglav Aret, lorsque il pose ses pieds par terre, parce que là, il a pas encore posé ses pieds par terre. Alors, comment il s'est levé? Hein?
Il fait de la lévitation.
Comment il a fait, là? D'accord? Il s'est assis, d'accord? Après, on a dit, Zokef. Donc, Zokef, ça veut dire, il se redresse. Bon, il se redresse. Après, il y a Nia Raglav à la Aret. Il va poser ses pieds par terre. Qu'est-ce qu'il fait comme racha? Il va faire la racha, Roka Aret Salamaim. Il va remercier Akadosh Baruch Hu pour avoir créé la terre sur l'eau. Puisque vous savez que lorsque Akadosh Baruch Hu a créé le monde, il n'y avait que de l'eau. Ça veut dire que, quand Akadosh Baruch Hu a créé le monde, quelqu'un qui voulait poser ses pieds sur une terre sèche, je peux pas. Ça doit constamment être en activité. D'accord? Il n'y a pas de terre sèche. Il n'y a pas d'endroit où tu peux poser tes pieds. Le fait qu'Akadosh Baruch Hu a créé un endroit dans lequel on peut poser nos pieds. Je peux m'arrêter dans un endroit. Je m'arrête. Allez, je suis plus en activité, je m'arrête. Ça, c'est une chance que Akadosh Baruch Hu nous a donnée. C'est un cadeau d'Akadosh Baruch Hu. Donc pour ça, il faut remercier Akadosh Baruch Hu. Donc là, on fait un flashback à ce qui s'est passé à la création du monde. Donc gros cas à Aret, à la Maïm, Akadosh Baruch Hu qui a formé la terre sur l'eau.
Mais c'est pas comme ça que c'est dans Bereshit. Dans Bereshit, c'est qui a séparé les terres Ayabasha de la terre sèche.
Quand Akadosh Baruch Hu a créé le monde, d'accord, au début, il n'y avait que de l'eau partout.
Et après, il a retiré l'eau.
Et c'est pas qu'il a retiré, c'est que dans l'eau, il a mis comme des îles. En vérité, donc. Même ça s'explique aujourd'hui en histoire, c'est que aujourd'hui les pays dans lesquels, les continents dans lesquels on habite, d'accord, c'est comme des grandes îles et qui changent, d'accord, qui grandissent, qui rapetissent, enfin ça change constamment. Et justement, Roka Aret Salamaim, la dérive des continents, on va chercher le mot. Roka Aret Salamaim, c'est-à-dire on remercie Akadosh Baruch Hu pour le fait de nous avoir donné un endroit où on peut poser pied par terre, pied à sol. ce qui nous donne la possibilité justement de s'installer. Sans ça, constamment en activité. Roka arrête la maille. Chez Noël Minralav. Ensuite, lorsqu'il va mettre ses chaussures, Yevar fait la bracha chez Asali Kol Sorki. Alors, à l'époque de la Mishnah, les chaussures étaient considérées comme un luxe.
Bien sûr.
Un luxe. D'accord. Et donc, lorsqu'il met ses chaussures, qu'est-ce qu'il fait comme bracha? Il dit, je remercie Akadosh Baruch Hu de m'avoir donné tous mes besoins. Alors, donner tout ce que j'ai besoin. Ça veut dire quoi, tout ce que j'ai besoin? Ça veut dire, même des choses qu'en vérité, j'ai pas vraiment besoin, que j'aurais pu me débrouiller sans. À l'époque, les chaussures, c'était un luxe. D'accord. Même aujourd'hui, dans certains pays, les chaussures, c'est un luxe. Donc je remercie Akadosh Baruch Hu pour ça. Et en vérité, je ne remercie pas que pour les chaussures. C'est une manière de remercier Akadosh Baruch Hu sur le fait qu'Akadosh Baruch Hu ne me donne pas seulement ce dont j'ai vraiment besoin, mais il me donne également des bonus, des luxes. D'accord ? Ça, on en a tous les jours.
Pour ça,
on le fait à Tisha B'Av, on ne le fait pas.
Voilà, mais pour ça,
on ne le fait pas.
D'accord ?
Ni à Tisha B'Av, ni à Kippour, parce qu'on considère qu'étant donné qu'à Tisha B'Av et à Kippour, on a mis des restrictions sur les chaussures, donc on nous a pas donné tout le luxe qu'on voulait. Donc, étant donné que c'est une bracha qui a été faite autour des chaussures, donc on la fait pas.
Enfin, il y a quand même une petite.
Alors encore une fois, pourquoi on la met autour des chaussures? C'est pas parce que c'est lié particulièrement aux chaussures. C'est parce que les chaussures, c'est la première chose qu'on va faire qui n'est pas vraiment nécessaire. Tout le reste était nécessaire. Le fait de pouvoir se lever, de marcher, etc. Ça, c'est des choses qui sont nécessaires pour la structure d'un homme. D'accord? Le fait de pouvoir poser les pieds par terre, ça, c'est des choses qui sont nécessaires. Ça c'est obligatoire. Mais les chaussures,
aussi,
d'accord?
Mettre ses lunettes, mettre sa montre.
Qui
t'a dit
finalement, dans Chez Asali Kol Sorki, on fait un peu le tour de... C'est la première fois, en tout cas à l'époque de la Gemara, c'est la première chose qu'on met qu'on n'a pas vraiment besoin. Et c'est pour ça que dans cette bracha-là, on va inclure tout ce qu'il y aura par la suite, qu'on n'a pas vraiment besoin.
Mon père, à sa bar mitzvah, en 1935, un truc comme
votre
ça.
Père, à sa bar mitzvah,
vous l'a raconté, ouais. Il m'a dit, on m'a offert ma première paire de chaussures.
Ah oui, bien sûr.
C'était en Tunisie. Il m'a dit les chaussures, c'était un grand luxe. Ouais. On avait des flip-floops, des trucs comment ça s'appelle?
Mais vous voyez, vous allez en Afrique.
En corde.
D'accord, vous allez en Afrique.
Il n'y avait pas de chaussures, c'était le luxe.
Vous allez en Afrique, ils n'ont pas de...
André,
ils n'ont pas de... Vous allez en Afrique, ils n'ont pas de chaussures. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'il y a même une halakha dans Shulchan Aruch qui dit qu'on recommandait aux juifs, d'où le Sarouel, qui n'avait pas les moyens de se payer des chaussures. Étant donné quelqu'un qui marche en chaussures, donc naturellement ses pieds, bon, ils sont dans un état.
D'accord.
Non, c'est pas seulement qu'il est en danger. C'est que bon, non, on lui oblige pas de mettre des chaussures. Mais ce qui se passe, c'est que comme ses pieds peuvent être sales, etc., et que c'est pas respectueux, on lui demande de mettre un vêtement qui descend pour cacher ça.
Ah oui.
Et même une injonction au Talmid Racham, c'est-à-dire celui qui a un poste qui représente quelque chose dans l'âme Israël, on lui dit que même s'il veut mettre un vêtement plus court, on lui dit attention, t'es obligé de mettre des chaussures parce que tu dois pas avoir une image, on ne doit pas avoir du sang partout. Là, c'était fréquent, c'était classique à l'époque. Bah, au Hachem, aujourd'hui, tout le monde a accès au pain, par exemple. On verra après, on remerciera Kadosh Baruch Hu pour ça. D'accord. Tout le monde a accès au pain en France. Il n'y a pas une personne qui va dire, j'ai pas accès à une baguette de pain. Je me rappelle quand j'étais enfant, j'ai amené tous les jours ou tous les quelques jours, j'allais faire les courses pour une dame âgée qui a passé la Shoah. Et elle m'a dit, j'allais lui acheter du pain, une baguette. Et toujours elle me dit, mais vous vous rendez pas compte la chance que vous avez quand vous avez du pain. Elle me dit, vous rendez pas compte, avant on savait pas ce que ça veut dire. Il y avait des gens qui voulaient manger du pain, il y avait pas de pain. C'est-à-dire qu'il faut payer, t'as pas de quoi payer, il n'y a pas. Et ça m'a marqué parce que c'est quelque chose qu'on se rend pas compte aujourd'hui. Alors on prend une baguette, on mange la moitié, on jette. C'est un peu rassis, on le jette, oui, exactement. Kshéoler, d'accord, Kshéoler, lorsqu'il marche, Yevarer, il fait la bracha, et ça c'est une bracha qui est extraordinaire, Amichin mitzade gaver. On remercie Akadosh Baruch Hu de préparer les pas de l'homme. C'est-à-dire comme ça, là j'ai mis les chaussures, donc je vais commencer à marcher. Qui dit marcher, ça veut dire que bon, je vais commencer à marcher. Donc moi je pense que je maîtrise, je dis je sais où je vais, etc. En vérité c'est faux. C'est Akadosh Baruch Hu qui prépare constamment les pas d'un homme. Et c'est lui qui prépare où je vais aller, d'accord? Et qu'est-ce qui va m'attendre où je vais aller? Et donc, je remercie Akadosh Baruch Hu de préparer mes pas et de me préparer le terrain. Amechin, celui qui prépare mitzadé, les pas gaver d'un homme. Keshe Roger Chagoro, lorsqu'ensuite il met sa ceinture. Pourquoi il met sa ceinture? Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas comme aujourd'hui les pantalons et les chemises. D'accord? À l'époque, c'était un long vêtement. Or, on a l'obligation, au moins pour la tefila, de séparer entre le haut et le bas. D'accord? Comme dans la Gemara, on dit, pour pas que le cœur voit la nudité. Voilà, c'est comme ça que la Gemara dit. Donc, il va mettre la ceinture. Donc, quand il met la ceinture, quelle bracha il fait? Dans les mots, Kshekorech Hagoro, Yevarer, il fera la bracha, Ozer Israël, Bigvura. celui qui saint Israël, donc ceinture, Bigvoura, d'accord, Bigvoura avec la force, avec la vigueur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, étant donné que la ceinture à l'époque c'était une particularité juive, en tout cas, mettre la ceinture pour la prière, c'était quelque chose qui était particulièrement juif. Donc on remercie Akadosh Baruch Hu de nous avoir rajouté, la Kedusha, d'accord, la Kedusha, la vigueur, la vigueur et surtout en ce qui concerne la Kedusha, et une Kedusha supplémentaire. Donc on remercie, c'est là qu'on commence à remercier Akadosh Baruch Hu pour l'aspect particulier qu'il a donné au Ham Israël. Aga, le Rama nous dit, Olovesh Avnet, Amafsik Ben Libo Leherva. Oui, ça c'est intéressant pour les Ashkenazim, apparemment ils étaient un peu plus évolués à cette époque-là. Hein, chez les Sfaradim, c'était évident, on mettait la ceinture, il fallait séparer dans le Sarwal. Apparemment, chez les Ashkenazim, il y avait déjà le pantalon et la chemise, etc. Donc il dit, bon, si c'est pas la ceinture, si c'est pas la ceinture, hein, c'est, on va mettre la ceinture pour séparer donc le Sarwal, on va mettre une ceinture qui va séparer Ben Libo Larva entre le cœur et la nudité, parce qu'à cette époque-là, on connaissait déjà les pantalons, etc. Donc,
oui, c'est une mode vestimentaire.
Oui,
hein,
ça avait déjà démarré. Là, on voit que cette mode vestimentaire avait déjà démarré. Oui, dans les petits tests et les Ashkenazim. Ça avait déjà démarré chez les Ashkenazim.
Avec les élastiques aujourd'hui, c'est dans les...
Moi, j'aimais ça, regardez. Moi, tous les jours, quand je fais la tefila, je les laisse dans mes tefilines. Aujourd'hui, c'est un minag. Aujourd'hui, c'est un minag. Parce qu'aujourd'hui, étant donné que la nudité est déjà séparée du cœur avec deux vêtements différents, donc c'est pas obligé à l'achiquement. Mais bon, on verra après que c'est écrit en Shkhanahu, c'est toujours un bon minage de le faire, on y arrivera à Bedrat Hashem. Donc, quand même séparer le haut et le bas du corps, donc avec une manière de se préparer à la tefila, avec ce qu'on appelle, c'est un yiddish, hein, un gartel. Enfin, c'est marrant parce que quand j'étais en Israël, j'ai vu, parce que c'est pas un minag ashkenaz, hein, il y a plein de sfaradim qui le font aussi. Et il appelle quand même, quand il rentre dans un magasin, il demande un gartel. C'est comme beaucoup de mots comme ça. C'est-à-dire qu'ils sont devenus comme choul.
Ouais. Choul. L'école, ça veut dire.
Choul, c'est un mot ashkenaz. Choul, c'est un mot ashkenaz.
C'est
school.
C'est
l'école.
C'est
un allemand. C'est un mot ashkenaz. C'est devenu, je pense, c'est un mot qui
est... C'est un allemand, tout simplement.
C'est un classique.
C'est à l'endroit où on étudiait. Choul,
c'est l'école.
Ça vient du mot school. Non,
c'est Ketev. Ketev.
Là, on écrit.
Chez Massim Kova, quand il met le chapeau au mitznefet, alors c'est le chapeau ou la casquette, Vérocho à sa tête. C'est-à-dire que là, il faut dire qu'il n'a pas encore de kippa sur la tête.
Ah, d'accord, il a tous ses bras rondes avec la tête nue.
Bonne question. C'est vrai? En tout cas, pour l'instant, il n'avait pas le chapeau.
Bon.
Encore une fois, ça a changé aujourd'hui. Même à l'époque, on ne mettait pas la kippa toute la journée, comme aujourd'hui. Enfin, il n'y a pas cette obligation. Aujourd'hui, c'est une force de minag, c'est une obligation. Quand on peut, il faut la mettre. Alors, on y arrivera, vous inquiétez pas.
On fait une bracha sans avoir la kippa en ayant bien, on n'est pas obligé de la refaire.
Aujourd'hui, oui. À l'époque, non. Aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, la kippa, c'est une manière pour nous de nous différencier des goyim, et que ça a pris une force de minag qu'on peut plus, Non, tu l'as fait,
D'accord.
Sur
la kippa,
oui,
c'est Michel qui fait une bracha.
Non, il l'a déjà fait. Non,
c'est un accident.
C'est un accident.
Il croyait qu'il l'avait.
Il y a la belle kippa.
Tu peux pas faire une bracha.
Il vaut mieux la faire sans kippa que pas du tout.
Mais il met la main sur sa tête. Il met quelque chose, il met même une serviette.
La main, non.
Alors,
pas exactement. La
partie où il y a du tissu. Ça, on l'avait expliqué, on l'avait fait au début du Mishnah Moura. D'accord.
Non, c'est pas bien.
Mais attention, pas la main. Il faut que ce soit la chemise. Ou bien, la main de quelqu'un d'autre.
Ouais.
Ça, c'est valable aussi. Mais sa propre main, non.
Quelqu'un d'autre. Ah oui.
Mutuellement, donc.
Est-ce que...
Il y a une taille minimum. Je veux dire ça, on pourrait considérer que
2 cm carrés.
Il y a deux choses dans la kippa. Il y a deux choses dans la kippa.
Moi, je m'en
Il y a un aspect dans la kippa qu'on dit que le but de la kippa, c'est de se rappeler qu'on a quelque chose sur soi. Donc pour ça, bon, il faut qu'elle tienne, c'est tout. Il n'y a pas forcément de restriction. Mais à part ça, on recommande que la kippa recouvre la majorité de la tête. Du crâne.
Ça dépend de la taille du cerveau.
Non, vous avez maintenant les gens qui mettent les kippas comme ça, etc. Tu le vois, il n'y a pas de kippas. D'accord? Non. Encore. Il y a deux choses. Il y a une première chose, c'est de se rappeler qu'on a toujours quelque chose sur soi. Toujours la présence divine. Mais à part ça, c'est recommandé que la kippa recouvre l'essentiel de la tête, la majorité de la tête. Au moins 51% de la tête. Donc bon, il faut quand même une kippa qui est assez large. L'équipe d'aujourd'hui, bah oui, majorité de 51.
Tu as raison, il faut le calculer 51.
C'est pour ça que l'opacité.
Non, l'équipe d'aujourd'hui, c'est bon, mais, ça le fait.
Tu peux la mettre comme ça, c'est pas les gens maintenant, ils la mettent devant comme ça.
Les cardinaux goy, là, les cardinaux crétins.
Laisse-les qui mettent la kippa, c'est bien.
Ils portent une kippa pour ça, les cardinaux goy.
Ceux
se différencier. Se
différencier, se différencier
bah, parce que comme ils
s'estiment juifs, l'Avdil,
ils s'estiment très officiants. Donc eux, par contre, tous les fils d'Avdil, découvrez-vous.
Laisse le mettre des kippas comme ça, pour reprendre
la question.
Pas grave. Laisse le mettre des kippas Tintin ou tout ce que tu veux, tant qu'ils mettent la kippa, c'est bon.
De toute façon, ils sont obligés de mettre la kippa pour rentrer, tu vois.
Oui, mais même, il y a des modes après, tu vois, ils aiment mettre tout ce qu'ils te mettent.
Ouais, la mode
actuellement, c'est pas grave.
Il faut pas les cheveux, ils ont du zèle, je sais pas trop.
C'est pas grave, laisse-les.
Laisse-les. Laisse-les.
C'est Bracha qui a des modes autour de la kippa. Alors, Shema Simkova au Mitznefet Borosho, lorsqu'il met le chapeau au Mitznefet, donc on a dit, ou bien la casquette là dans sa tête, Yevarer, il fait la Bracha. Ça, encore une fois, c'est une caractéristique juive. C'est une doucha particulière que Kadosh Baruch nous a donnée, donc je fais. Yevar, il fait la bracha, enterre Israël, Betifara, celui qui a couronné Israël, Betifara, avec la gloire. Ça veut dire comme ça. C'est-à-dire que finalement, on remercie pas Kadosh Baruch pour le chapeau et pour la ceinture. Mais quand je mets la ceinture, je me rappelle qu'Kadosh Baruch nous entoure constamment. Il nous entoure constamment, il s'occupe de nous. Et quand c'est une caractéristique juive qui me rappelle que Kadosh Baruch s'occupe de nous. Quand je mets la casquette ou le chapeau, et donc c'est une caractéristique juive. Je me rappelle que Akadosh Baruch Hu va couronner le Ham Israël avec la gloire. Pas avec la gloire, c'est pas mon chapeau. Mais je me rappelle qu'Akadosh Baruch Hu, de manière générale, dans le concept, il va nous couronner avec la gloire. Chez Itol Yadav, lorsqu'il se lave les mains, Yevarer, il fait la bracha, al netiyat yadayim. Donc vous voyez, de là on comprend qu'à cette époque-là, on s'était pas encore lavé les mains. À l'époque du Shulchan Aruch, d'accord, si on suit l'ordre.
On n'avait pas fait les brachot, donc.
Tu penses, si, il a fait les brachot sans se laver les mains.
Oui, sans se laver les mains.
Alors qu'aujourd'hui,
il s'est pas lavé les mains. Ouais. Il s'est pas encore lavé les mains, ce qu'on vient de dire.
Alors qu'aujourd'hui, on peut pas dire l'ordre d'Hachem.
Aujourd'hui, non. Justement, vous voyez que ça a changé. Vous voyez, comme la kippa, voilà, à l'époque, tous les premiers brachot, ils avaient sans la kippa.
Au fait, pourquoi il n'y a pas un sens?
Pourquoi
on ne démarre pas des pieds, on finit la tête?
Parce qu'on a expliqué, on suit l'ordre quand on se lève. Il y a un ordre très précis là.
Tu redresses, tu poses les pieds par terre.
La douche, c'est à quel moment alors?
Et tu vas te laver les mains.
Il s'est habillé déjà et après il se lave les mains. Donc
mais la douche après. J'ai dit tout à l'heure à Lionel. J'ai dit que dans la bénédiction du matin, on fait un flashback.
Maintenant, le vêtement est
en revient en arrière. Mais il va se laver les mains, après il va faire sa toilette, etc. Après il met les titites et les tulines. Il m'a mis une question après quand il met les titites. Mais ça veut dire qu'il faisait les brachot en temps réel.
Je parlais de la douche, pas des mains. Je parlais de la douche. Il s'est habillé.
Ah, si c'est habillé.
Comment il fait la...
Voilà, il s'est pas encore habillé, là. Il a mis des chaussures.
C'est dit, Magdisha Roumim.
Il a mis un vêtement, oui.
Magdisha Roumim.
Oui, mais qu'est-ce qu'il a mis comme vêtement? Qu'est-ce qu'il a mis comme vêtement?
Il y avait un vêtement de nuit. Il y avait un vêtement de nuit. Un habit, c'est un manteau. C'est pas un pyjama.
Tu sais, c'est intéressant parce qu'on verra pas dans le Shulchan Aruch, on demandait aux Juifs de se laver au moins une fois par semaine pour le Shabbat. Et que c'était un kavod.
Ouais.
C'était beau qu'il se lavait une fois par semaine.
C'était un bon Shabbat.
Ah oui.
On vit une époque magnifique.
Parce
il y
que
avait pas de coton. Hein.
Parce que les gens, parce que les gens se lavaient, ne se lavaient pas. Rien. Bon, d'un autre côté, leur corps, c'est pas forcément que ça c'était mauvais, hein. C'est pas forcément que ces gens sentaient mauvais.
Dans toute l'histoire de l'humanité, jamais l'homme n'a été aussi heureux. Jamais.
Mais c'est pas dit qu'ils sentaient mauvais, hein. C'est pas dit qu'ils sentaient mauvais parce que
toujours pareil. Toujours pareil.
Enfin, il a autant de possibilités d'être heureux.
Voilà, il faut dire comme ça.
Je suis allé à Gérone. À Gérone, le musée juif.
Les 6 milliards d'habitants, ils mangent tous à notre faim.
Écoutez, c'est intéressant ce que je vais vous dire.
La moitié de la taille, oui, ils mangent
pas leur faim. Pareil que chaque seconde, il y a quelqu'un qui meurt de la faim. Pareil que chaque seconde, il y a quelqu'un qui meurt de la faim. Ils disent que chaque seconde, non, la faim, chaque seconde, il y a une personne qui meurt de la faim. Ça peut être un nourrisson, ça peut être qui vous voulez, mais il y a une personne qui meurt à cause de la faim.
Que ça?
C'est ce qu'ils disent aujourd'hui, ouais.
80 000 personnes.
Pas énorme?
Écoute, il y a une femme battue qui meurt par jour, hein. Pareil.
Non, on a 40 personnes qui meurent de...
Parce que son mari avait deux.
Une femme battue, elle meurt des coups de son mari.
Ouais, une femme. Et un homme par semaine. Je voulais vous dire, je suis à le musée juif de Gérone.
Oui.
Et il est dans une maison. Il est dans une maison juive. Une maison juive qui date du 12e siècle. Et dedans...
En pierre.
En pierre, bien sûr. En pierre, alors on le visite, en pierre, il y avait l'eau courante. Écoutez bien, des canalisations, et il y avait un mikvé au rétro.
Le courant, comment le courant?
Eh ben, il y avait un système de canalisation, qui faisait qu'il y avait de l'eau, avec
de pluie, d'accord.
Voilà. Et il y avait l'eau courante au 11e,
te rends compte ou pas là?
Oui, oui, bon, c'est,
hein, tu vas
c'est l'italien, les Romains.
À Pompée, il y avait déjà le courant, ça.
C'est romain.
C'était une maison d'un juif, j'ai tout
enregistré. Venez juste, on finit la lach, on s'arrête. Voilà, juste donnez-moi 30 secondes. Alors, chez Echad Panav, Yavarech, Amavir, Shena, Meenaï. Lorsqu'ensuite, allez, mais c'est juste, on finit. Lorsqu'il se lave la figure, voilà, il ne s'est pas encore lavé la figure. Donc, lorsqu'il se lave la figure, Yavarech, il fait la bracha, Amavir, Shena, Meenaï, il remercie Akadosh Baruch Hu d'enlever le sommeil de ses yeux. D'enlever le sommeil de ses yeux, c'est-à-dire de faire que je me réveille et que j'arrive à me réveiller. Et ça arrive vraiment quand on se lave la figure. C'est là qu'on se réveille.
C'est vrai. Même en passant un peu d'eau.
Viratson, bien sûr. Viratson, donc surtout sur les yeux. Viratson veut rouler. Ad Bauchat Hashem, Gomer Hasanit Tomi Lamo Israël. En, la note Amen, Achar Amavir Shena, Menai. Ad Shirtom, Gomer Hasanit Tomi Lamo Israël. Shakol, Bracha, Achat I. Ok. Alors, il nous dit la chose suivante. Il nous dit, vous remarquerez dans le Sidour, on va enlever le Patachi au moins. Donc, dans le Sidour, on dit Bauchat Hashem, Amavir Shena, Menai, Utum, Amavir Fapai.
Comme ça,
vous le verrez.
Au pluriel.
Donc on a des brachot individuelles, d'accord? On a des brachot individuelles, donc sur chacune des brachot, on peut répondre Amen. Mm-hmm. Si vous entendez quelqu'un, vous pouvez répondre Amen. Ensuite, on arrive à Baruch Ata Hashem, Amavir, Shena, Meena, Yotuma, Mafapai. Alors ici, ils l'ont bien fait, vous voyez? Ils ont mis une virgule après, et ils ont mis Viratson. Pourquoi ils ont fait ça? Parce que il faut pas répondre après Amen, après ou Meafapenu, parce que Meafapenu, c'est pas la fin de la bracha. C'est une bracha qui démarre avec un barour et qui finit avec un barour, Baruch Ata Hashem, Agomer, Hasselin, Tomi, Lamo, Israël. Enfin, ici, ils l'ont bien fait, parce que moi, dans mon sidour, ils ont dit, ils ont dit, Baruch Ata Hashem, Avershen, Amen, Akuma, Meafapai, point à la ligne, Viratson. D'accord?
Après ta confusion, alors, on a l'impression que c'est...
On aurait pu croire. Alors, c'est bien que, pourquoi ils l'ont fait comme ça? Parce que, dans la Gemara, c'est deux brachot, je veux dire, dans la Gemara, c'est deux entités différentes. C'est pas la même chose, ça et ça. Mais aujourd'hui, ça a été groupé en une seule bracha. Donc, on répond pas Amen après le mot Me'af Apai, puisque la bracha se termine à Gomel Chassanim Tovim, l'air un mot Israël.
Ouais, ils ont fait une erreur dans la Trinité.
C'est pas une erreur.
Il y a quelque chose qui est pas...
Dans la Gemara, c'est une autre option.
Le rabbi, il a fait 50 trucs. Il a dit ça, il faut...
Pour les gens intelligents qui savent que c'est deux choses différentes, c'est coupé.
Il a failli nous faire croire que c'était une erreur.
D'accord, donc on continuera à Bezrat Hashem la semaine prochaine, et à la
fin de la semaine.